Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue au Festival de Rocamadour pour notre dernier rendez-vous avec l'un des musiciens programmés lors de cette édition 2025, la 20e, qui va donc connaître son épilogue ce mardi 26 août avec le concert que donne à 21h à l'abbatiale Sainte-Marie de Souillac, le concert de la loge et l'ensemble La Sportelle. Nous allons y entendre entre autres la grande messe en nude de Mozart et j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec le fondateur et directeur artistique du concert de la loge, le violoniste Julien Chauvin. Bonjour Julien Chauvin et merci d'avoir accepté cette interview pour les auditeurs de Radio Présence.
Bonjour Radio Présence et je suis ravi d'être avec vous.
Les fidèles du festival doivent s'en souvenir, il ne s'agit pas d'une première pour vous. Le concert de la loge était à Rocamadour il y a peu puisque vous y étiez déjà produit en 2021. Vous aviez donné les 4 saisons de Vivaldi mais c'était dans la vallée, au pied de la cité. C'est toujours particulier de jouer en plein air. Est-ce que vous avez apprécié de le faire dans ce décor, dans cet environnement ?
Ah oui, je dois dire que pour nous, c'était à la fois un défi, mais ça restera un souvenir extraordinaire d'être en contrebas du village, dans cette grande vallée où il faisait en effet 35 degrés l'après-midi et 15 degrés le soir, avec des variations d'hygrométrie incroyables. Mais disons que c'est un souvenir de communion avec le public qui était très nombreux. Je crois que c'était une des premières éditions où ça
s'est passé. C'était la première édition où effectivement voilà. Il y avait des concerts en plein air.
Exactement.
En tout cas, plusieurs concerts en plein air. Oui, oui.
Exactement. Et c'est vrai qu'on s'en souvient avec vraiment beaucoup d'émotions parce que c'était totalement magique de jouer sous les étoiles avec la vue sur Rocamadour derrière. C'était vraiment extraordinaire.
Je confirme, c'est un décor, je pense, unique en France pour des concerts. Alors, vous allez vous produire cette fois-ci à l'abbatiale Sainte-Marie de Souillac. Est-ce que vous connaissez déjà ce lieu ou est-ce que ça va être une totale découverte pour vous ?
Eh bien non, non, je ne la connais pas. La dernière fois, on n'avait pas eu le temps de monter en haut du rocher, donc ce sera vraiment une découverte.
Alors là, c'est même pas en haut du rocher, puisque c'est pas à la basilique, c'est à Souillac, hein, à l'abbatiale,
ah oui,
qui est à 20-25 km de Rocamadour, mais où il y a aussi une acoustique extraordinaire. Je pense que vous aurez aussi beaucoup de plaisir à jouer dans ce lieu. Vous avez une longue histoire personnelle avec la musique sur instruments anciens, telle que vous la pratiquez avec le concert de la loge, puisque dès 2005, à l'âge de 26 ans, vous aviez cofondé avec Jérémy Rohrer, le Cercle de l'Harmonie, ensemble que vous allez co-diriger avec lui pendant 10 ans. Et puis donc en 2015, c'est le 10e anniversaire cette année, vous fondez le Concert de la Loge, qui s'appelait au départ le Concert de la Loge Olympique, en référence à la société de concert qui œuvrait à Paris entre 1782 et 1789. Quel était votre objectif en vous lançant dans ce nouveau projet artistique et cette nouvelle aventure collective ?
En fait, en 2015, j'avais envie de prendre un nouveau souffle, de servir encore plus notre répertoire, le répertoire français, assez typiquement parisien de la fin du XVIIIe siècle. Et donc, je suis rentré en connexion, disons, avec cet orchestre, cette institution qui était reconnue partout en Europe dès sa création en 1781, enfin, c'est 1780-82, le concert de l'âge olympique qui allait mettre en valeur pendant des années les compositeurs français, mais aussi des compositeurs allemands, italiens, belges, dans des compositions qui allaient de symphonie en concerto, en oratorio, en opéra. Et c'est vrai que j'avais envie de me replonger avec nos musiciens dans ce répertoire et sachant qu'aussi l'orchestre à l'époque était composé des plus grands interprètes et notamment des musiciens qui allaient devenir les premiers professeurs du Conservatoire de Paris puisque le Conservatoire de Paris va être créé en 1795. Donc il y avait beaucoup de choses à relever et c'était un défi de pouvoir le faire en 2015.
Oui, alors vous êtes un passionné de l'histoire de la musique, en particulier de cette période, et vous avez parlé d'explorer le répertoire lyrique et instrumental français, des pages oubliées même pour beaucoup, que vous avez ressorti un peu des tiroirs, si je puis dire, des archives.
Oui. Ça faisait vraiment partie du jeu, c'est-à-dire que on pouvait aller sur des partitions tout à fait connues. À d'autres moments, l'idée, c'était de pouvoir faire cohabiter pendant le même concert une œuvre vraiment connue du grand public. Et puis, des redécouvertes qu'on a faites, évidemment, en lien avec notamment la Bibliothèque nationale de France, qui conserve dans ses réserves des joyaux, des œuvres, en effet, qui sont parfois restées à l'état de manuscrits. qui n'ont jamais été éditées. Donc c'était parfois un travail d'archéologie, parfois un travail pour déchiffrer vraiment ces partitions. On a même fait nous-mêmes des éditions afin que les musiciens puissent les jouer. Et en tout cas, ça a été 10 ans de découverte et de redécouverte d'un répertoire typiquement français, mais qui avait la particularité d'avoir les saveurs et les inspirations d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre, de Hollande, de Belgique. C'est-à-dire que Paris était le centre névralgique un peu de la musique, le centre européen de l'édition de partitions, et donc les gens venaient de partout en Europe pour faire carrière à Paris.
Alors on parle d'histoire là, et je précise pour ceux qui nous écoutent que vous avez la particularité de diriger de votre violon les concerts que vous donnez avec votre formation. Ça peut surprendre vu de l'extérieur, mais il faut savoir que c'était quelque chose d'assez courant à la fin du XVIIIe siècle.
Oui, alors c'est absolument naturel de jouer la musique en dirigeant de la place de concertmeister. Le maître de concert, il est à l'époque à la place du premier violon. Le rôle du chef d'orchestre et la personne du chef d'orchestre, en fait, elle n'arrive qu'au milieu du 19e siècle. Donc voilà, c'est pas la même manière de faire de la musique. Évidemment, il y a plus de liberté donnée à chacun, plus d'autonomie à chacun des pupitres de l'orchestre. Et c'est un plaisir de naviguer dans la musique comme cela.
Autre particularité qui est vraiment propre à votre formation, le concert de la loge, vous avez la volonté de proposer, autant que faire se peut, des formats de concert où votre ensemble interagit avec le public, où le public est impliqué et fait en quelque sorte partie intégrante du concert. Qu'est-ce que cela implique concrètement ?
De nos jours, quand on est musicien ou artiste, je pense qu'on a pas mal de missions, notamment de communiquer avec le public, c'est-à-dire de retirer la barrière qu'il y a parfois un peu hermétique entre le public et les artistes. Donc ça peut partir par exemple une prise de parole, une présentation des œuvres, de raconter comment elles nous sont apparues, comment elles sont venues à nous, comment on a souhaité les rendre aux auditeurs, parce que nous on a un seul rôle en fait en tant que musicien, c'est travailler pour que l'œuvre soit lisible pour l'auditoire. Donc c'est pouvoir parler, c'est pouvoir aussi demander son avis au public, comment il a aimé, comment ils ont ressenti les œuvres. Et c'est vrai que ça passe par un peu plus de spontanéité. En tout cas, c'est de rendre le moment du concert un peu moins sacré dans le sens cérémonial, où on n'a pas le droit d'applaudir entre les mouvements, où voilà, on doit absolument connaître la musique pour venir écouter. On pense qu'il faut avoir un certain savoir pour apprécier. Et c'est vrai que c'est des choses contre lesquelles on se bat ardemment, parce que toute personne qui a deux oreilles doit pouvoir apprécier la musique sans forcément la connaître. Et c'est ce qu'on essaye de faire toute l'année, oui.
Pour rappeler quelques souvenirs à ceux qui avaient assisté à votre concert du Festival 2021 dans la vallée de l'Alzou, je propose que nous écoutions le concert de la loge dans un extrait des 4 saisons de Vivaldi. C'est le premier mouvement Allegro non molto de l'hiver.
Thank you.
Premier mouvement Allegro non molto de l'hiver, extrait des Quatre saisons de Vivaldi dans une version du Concert de la Loge dirigé par Julien Chauvin. C'était l'œuvre que vous aviez interprétée lors de votre première venue au festival en 2021. Ce qui m'amène à parler maintenant du programme que vous proposez cette année à l'abbatiale de Souillac avec l'ensemble La Sportelle et quatre chanteurs solistes dont je vais préciser les noms tout à l'heure. La soirée est entièrement dédiée à Mozart avec au centre du programme sa fameuse grande messe en ut. Est-ce que c'est une œuvre que vous avez déjà donnée en concert avec le Concert de la Loge ?
Alors non, ce sera une première avec le Concert de la Loge. C'est une œuvre que j'ai beaucoup jouée par le passé dans d'autres formations. Mais c'est une œuvre que je connais depuis que j'ai 5 ou 6 ans. J'accompagnais mes parents qui chantaient dans un chœur amateur. Et c'est une œuvre qui fait vraiment partie de mon histoire, pratiquement de mon ADN. Et avec le Requiem de Mozart, c'est vraiment une des deux œuvres de mon panthéon sacré, en tout cas de la musique de Mozart. C'est deux œuvres qui ont des destins un peu similaires, qui sont pas complètement achevées, qu'on a dû terminer, mais qui sont d'une puissance émotionnelle extrême.
C'est-à-dire vous lui donnez une place aussi importante dans les grandes œuvres du répertoire sacré que les Passions de Bach, par exemple ?
Ah oui, absolument, absolument, avec les Passions de Bach, avec la création de Haydn, les Saisons. Oui, ça fait partie des incontournables qu'on peut chaque année, chaque saison remettre sur le métier, réapprendre, redécouvrir. Donc ça, c'est un peu comme les Quatre Saisons, c'est des œuvres qui sont inépuisables aussi en fonction des interprètes qui la servent, en fonction des acoustiques dans lesquelles on joue cette œuvre. Donc je pense que ça va être un très grand moment pour nous.
Quelles sont d'ailleurs les difficultés d'interprétation qu'elle présente, que ce soit pour l'ensemble des musiciens ou pour le chœur et les chanteurs solistes ?
Dans la musique classique, c'est toujours la justesse des proportions, la justesse de l'expression. Dans la musique de Mozart, on cherche toujours un équilibre. L'équilibre, ça a plusieurs
significations, sens.
C'est l'équilibre entre les voix, entre le chœur, entre l'orchestre, évidemment. Mais c'est aussi l'équilibre entre les tempi, entre les mouvements de la messe. C'est aussi un équilibre au sein de l'orchestre entre les pupitres, entre les instruments avant, entre les instruments à cordes. C'est aussi un équilibre dans l'expression, c'est-à-dire que on peut être expressif à cette époque, on peut être même théâtral parfois, mais en restant dans une limite et à la fois émotionnelle et de respect du texte. Donc on est vraiment sur un fil.
Quels sont les quatre chanteurs que vous allez accompagner donc pour interpréter cette grande messe en ut?
Donc on a Mélissa Petit, Eva Tsaitsik, Nawel Di Piero et Antonin Rondepierre.
Voilà, Mélissa Petit, qui sera la soprano, Eva Zajcik, qu'on connaît hein, au Festival de Rocamadour, puisqu'elle s'y est déjà produite, sera la mezzo-soprano.
Oui.
Et donc Antonin Rondepierre et Nawel Di Piero seront le ténor et la basse. Ce sera une première avec l'ensemble La Sportelle, je crois, pour vous,
oui.
Au concert de la Loge. Tous les raccords vont être faits le jour même ?
Ah non, on va venir en fait... Et c'est ce qui est formidable dans ce festival, c'est qu'on n'arrive pas à 16h pour repartir le lendemain à 7h du matin, mais là on va venir dans le couvent de Gramma, travailler, s'inspirer du lieu. Et le travail avec La Sportelle, je l'attends depuis plusieurs années maintenant. Je connais leur travail, je suis allé à de nombreux concerts, je connais la qualité de leur interprétation. Et dans cet effectif-là, ce sera une première pour eux, mais j'attends beaucoup de cette rencontre.
Il y a deux autres œuvres au programme de ce concert entièrement dédié à Mozart, je le répète. Lesquelles avez-vous choisi pour entourer sa grande messe en ut ?
Alors donc, on a l'ouverture des Noces de Figaro, qui est une ouverture qu'on a beaucoup jouée, que tout le monde connaît, mais qui est un chef-d'œuvre que Mozart a écrit en quelques heures. Et puis la symphonie Jupiter, qui est la dernière œuvre symphonique de Mozart.
Contemporaine du Requiem.
Voilà, exactement, et qui est un chef-d'œuvre absolu de forme, de proportion, qui est écrite en do majeur, une tonalité à la fois solennelle mais solaire. Voilà, je parlais d'équilibre tout à l'heure, on est absolument dans un équilibre. Les trois premiers accords, par exemple, de la symphonie Jupiter donnent le ton. C'est un peu comme les coups avant de commencer une pièce de théâtre. On est vraiment dans un équilibre parfait et c'est une œuvre qui fait appel à à tout le génie mozartien, aussi bien dans le domaine mélodique que dans le travail du contrepoint. Le final est basé sur une fugue. C'est un procédé d'écriture où on a un sujet, un thème qui va être repris plusieurs fois et quand il est repris, on met un autre thème par-dessus. Et à un moment, il y a tellement de thèmes en même temps qu'on a l'impression que Mozart ne sait plus trop où aller, et là il retombe sur ses pieds et on peut terminer la symphonie. Mais c'est un mouvement extraordinaire.
Et c'est là que tout le génie mozartien s'exprime. Donc il y a une cohérence à jouer au début l'ouverture des noces, à enchaîner avec la grand-messe en ut et à terminer par la symphonie numéro 41, appelée aussi
Ah oui,
Jupiter.
non, non, mais on fera ouverture et symphonie. On
D'accord,
fera.
donc c'est ouverture, symphonie et grand-messe
Oui,
pour terminer,
oui.
ce qui
Oui,
paraît effectivement
absolument.
un peu plus logique.
Oui, oui,
Alors,
oui.
on va donner à nos auditeurs un petit avant-goût du concert du 26 août, de ce 26 août à l'abbatiale de Souillac, avec un extrait de la grande-messe en ut. C'est le Laudamus Te. Le concert de la loge accompagne ici la mezzo-soprano Marina Viotti.
Laudamus te.
Le Laudamusté de la grande messe en ut de Mozart, une version du concert de la loge avec cette merveilleuse chanteuse qui est Marina Viotti. Pour conclure cet entretien, un mot sur vos projets à venir avec votre ensemble. Vous avez fêté cette année le 10e anniversaire de sa fondation lors d'un grand concert au Théâtre des Champs-Élysées l'hiver dernier avec tous vos amis chanteurs, instrumentistes. Qu'est-ce que vous nous préparez pour la saison 2025-2026? Est-ce qu'il y a par exemple un enregistrement prévu ou un nouveau programme de concert?
Alors, en effet, la saison anniversaire était très riche, mais la saison post-anniversaire va l'être aussi. On va donner une production au Théâtre de l'Athénée, là, à la rentrée, de Don Giovanni, de Mozart, dans une mise en scène de Jean-Yves Ruff. On a eu la chance de gagner le Grand Prix du Syndicat de la Critique pour ce spectacle, qui a été élu le meilleur spectacle de l'année, meilleure production. Donc ça, on va donner ça en démarrage de saison au mois d'octobre. On va donner au Théâtre des Champs-Élysées, où on est beaucoup cette année, notamment pour la reprise de la messe en ut, mais on va donner la création de Haydn. Cette création que nous avions enregistrée il y a 2 ans à la basilique de Saint-Denis. On a eu la chance de pouvoir passer quelques journées et quelques nuits là-bas pour enregistrer justement, je vous le disais, une version de la création de Haydn en français, qui était une particularité de nos Parisiens qui jouaient la musique des Allemands, mais en traduction française. Et puis un tas d'autres programmes. On a donc ce programme des 4 saisons qui tourne depuis 2 ans et demi avec le chorégraphe Mourad Merzouki. Et un événement phare, en effet, c'est l'opéra Médée de Cherubini, que nous allons donner dans une version flambant neuve au Théâtre des Champs-Élysées, que nous allons aussi enregistrer avec Marina Rebecca. Ça, c'est au Théâtre des Champs-Élysées au début du mois de février. Voilà, donc ça va être une année très chargée encore.
Vous avez toutes les grandes chanteuses qui ont un prénom Marina, si je comprends bien.
Oui, oui, il y a beaucoup de Marina. Il y a beaucoup de Marina. Et on fait bien sûr un concert avec Marina Viotti à la fin de la saison du Théâtre des Champs-Élysées en juin. Un programme qui s'appelle About Last Night, parce que c'est une chanteuse qu'on adore absolument et qui est tellement ouverte et qui est tellement sympathique et qui a tellement aussi envie de casser les codes, en tout cas d'aller vers le public. Ça, je pense que de nos jours, c'est une nécessité, si voilà, on veut survivre, d'oublier la tour d'ivoire dans laquelle on peut nous mettre de temps en temps, mais vraiment aller à la rencontre du public.
Un grand merci, Julien Chauvin, de vous être prêté au jeu de l'interview. Je rappelle que vous donnez, avec vos musiciens du Concert de la Loge, l'ensemble La Sportelle et 4 chanteurs solistes, le concert de clôture du Festival de Rocamadour 2025, ce mardi 26 août à 21h en l'abbatiale Sainte-Marie de Souillac. La billetterie est en ligne sur le site www.rocamadourfestival.com. Il doit rester quelques places, mais il faut vraiment vous précipiter si vous voulez en avoir une. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous tout au long du festival. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi à l'écoute de Radio Présence.
Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine Éric Dupris.